c'était des drames humains en permanence autour desquels on était. Et ça, évidemment, c'est encore une autre chose à gérer avec la fatigue.
Bonjour, je m'appelle Yves Pulici et la journaliste que vous venez d'entendre, c'est Clémence Dibou. Après plus de 2 semaines en Ukraine à couvrir les tensions dans le Donbass, elle vit avec David Couloum et Clément Grosdenier le début de la guerre. C'est la fin de leur mission, ils doivent rentrer. Après des jours et des nuits dans les embouteillages, elle nous raconte son retour à la maison. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Clémence.
Bonjour.
La première question du podcast, c'est où es-tu en ce moment ? Là, tu es en face de moi, on est à la rédaction de BFM. Tu n'es plus sur le terrain, tu es revenu cette semaine. Tu as passé plus de 2 semaines dans le Donbass, en Ukraine. Tu étais une des premières journalistes à arriver en Ukraine.
Oui, et c'est pour ça qu'on est rentré, parce qu'en fait, avec David Couloum et Clément Grosdenier, on est parti pour couvrir le Donbass. Et en fait, on devait rentrer le jeudi matin, pile quand il y a eu les premiers bombardements russes. Donc, on a traîné un petit peu, mais on devait rentrer parce qu'en fait, ça faisait très longtemps qu'on était sur place, quoi.
Pourquoi le 13 février, vous êtes parti dans le Donbass ? Qu'est-ce que vous vouliez raconter à ce moment-là ?
Bah justement, l'intensification des bombardements et des échanges de tirs des deux côtés sur la ligne de front.
À ce moment-là, on n'imaginait pas du tout que ça puisse s'étendre à toute l'Ukraine ?
Non, tout à fait. C'était vraiment quelque chose qui nous a marqué parce qu'avant d'aller dans le Donbass, on a évidemment fait des tournages à Kiev. Et le dimanche soir encore, on rencontre des Français. Jérémy, un Français qui nous disait « Non mais à Kiev, on est en sécurité, ils vont pas bombarder demain. » Philippe, un Belge, qui nous dit « Non mais là, on part parce que c'est les vacances scolaires. Mais en vrai, jamais de la vie, Poutine va mettre va faire la Biélorussie en Ukraine. » Or, effectivement, le jeudi, qui avait été bombardé.
Donc, le jeudi, vous deviez partir, vous deviez rentrer en France. Et là, vous prenez la décision de rester. Vous êtes où, dans quelle ville à ce moment-là ?
Alors, c'est encore pire que de prendre la décision de rester. De toute façon, notre avion devait être jeudi matin, 9h. Donc, mercredi soir, on arrive à Kiev, on relâche la pression. Jeudi, dans la nuit, à 4h du matin, on se fait réveiller par plein de bruit dans l'hôtel. Et en fait, c'est CNN qui avait annoncé des bombardements. L'hôtel, c'est l'hôtel Ukraine, c'est celui qui est au-dessus de la place Maïdan. C'est là où les grandes télés internationales font leur plateau télé. Et on a vu effectivement de notre fenêtre les bombardements. Et là, c'est parti pour une journée de breaking news, forcément, pour traiter toute la journée cette actu. Et donc, il n'était pas question de rentrer. De toute façon, il n'y avait plus de vol. Donc, il fallait au moins le temps de se retourner pour savoir ce qu'il en était, quoi. On reste 24 heures avec l'équipe relève, du coup. On essaye de voir comment on se répartit les rôles, ce qui est dangereux de faire, pas dangereux, si on peut sortir, pas sortir, comment on se répartit les rôles pour traiter cette actu au plus près. Et puis, décision est prise aussi le soir même, le jeudi soir, de dormir dans ce qu'on appelle un shelter, donc dans un imbri anti-aérien, parce qu'on ne savait pas encore ce qu'était précisément la menace.
Et vous partez le vendredi matin ?
On part le vendredi matin par la route. Parce que c'est le seul moyen de sortir, l'espace aérien est complètement clos. Et personne des deux équipes qui rentrent n'imagine qu'en partant le vendredi matin 9h, on arriverait en France le lundi soir seulement.
Vous avez fait quoi, 2000 km en 4-5 jours ?
Oui, on a fait, c'était en voiture. Normalement, Kiev jusqu'à la frontière polonaise, c'est 5 heures de voiture. On a mis à peu près 72 heures parce que ça bouchait de partout. Et le passage de frontière était effectivement extrêmement long.
Vous étiez en fait dans ces bouchons qu'on a vus partout à la télévision. Vous aussi, vous faisiez des sujets, vous faisiez des duplex à ce moment-là.
C'est-à-dire qu'on avait le temps de les faire, les duplex. C'était extrêmement long, c'était difficile évidemment parce qu'en fait, les stations essence, il n'y avait pratiquement plus d'essence. Il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus beaucoup d'eau. Donc, il fallait avoir fait ses provisions avant ou ben, tant pis, faire avec. Il fallait bien sûr dormir dans la voiture. Or, c'était pas on coupe le moteur et on dort tous les trois dans la voiture, parce qu'on était trois par voiture. Il fallait toujours un roulement avec quelqu'un qui conduise, parce que ça avançait de 100 mètres toutes les heures. Moi, ça m'est arrivé de devoir me dire « Oh là là, faut que je remette le moteur et faut que j'avance ». Évidemment, ça, c'est nos conditions à nous qui sont compliquées, précaires, mais on fait toujours avec là où on est. Et en plus de ça, bien sûr, il y avait tous ces Ukrainiens, toutes ces familles qui venaient là pour vivre des drames, parce qu'en fait, souvent, les papas allaient jusqu'à la frontière déposer tout le monde, les femmes et les enfants. Et après, ils repartaient au front parce qu'ils étaient appelés en tant que réservistes.
Je n'ai pas peur de me battre. Honnêtement, je veux vivre. Et aider ma famille. Je suis jeune.
Donc c'était des drames humains en permanence. Avec lesquels, autour desquels on était. Et ça, évidemment, c'est encore une autre chose à gérer avec la fatigue. Et pour eux, c'était évidemment encore plus compliqué, complexe que nous qui rentrions simplement chez nous. Il y avait 10 000 histoires autour de nous. En fait, chaque voiture était une histoire. C'était incroyable. C'est Anne-Sophie Varmont qui a parlé à un monsieur. En fait, ils étaient en train de partir parce que le monsieur avait le droit de partir à l'étranger, ce qui normalement n'est plus le cas pour les Ukrainiens. Et donc, ils avaient décidé avec sa femme de passer la frontière. Et 5 minutes après, on vous voit revenir en nous disant « Non, mais en fait, je ne peux pas laisser mon pays comme ça. Tant pis, on retourne à Kiev. On va voir comment on met les enfants en sécurité. » Sa femme était enceinte. Hein. Mais ils ont décidé de ne pas abandonner le pays, entre guillemets, et que lui, il allait se battre et qu'ils allaient voir pour mettre les enfants, mais qu'il n'était plus question de fuir. Enfin, toutes les histoires autour de nous étaient poignantes et journalistiquement riches et à raconter. Et à ce moment-là, on n'avait plus de fixeurs, évidemment. Donc, les journalistes locaux ukrainiens qui, en général, nous aident à traduire et à comprendre le pays. Donc là, on n'en avait plus. Sauf que là, on était carrément sur du langage universel. On avait, donc les moteurs chauffaient énormément toute la nuit en faisant du surplace. Donc, il y avait pas mal de voitures qui tombaient en panne. On parle de températures négatives la nuit avec des enfants qui dorment dedans. Il n'y a pas besoin de traducteurs pour aller offrir du café chaud quand on en a. Et donc, voilà, comme on noue le lien avec les gens. Moi, je me souviens d'une grand-mère qui ne parlait pas du tout anglais. Elle a réussi à me faire comprendre que son petit-fils s'appelait Michel. Il avait 1 an et demi et qu'elle partait avec lui parce que les parents restaient sur place pour le mettre à l'abri en Pologne. Évidemment, c'est des échanges sommaires, mais on comprend tout de suite ce qui se passe, la situation. Et en plus de ça, on ne peut pas être juste journaliste. Malheureusement, là, on est obligé aussi d'être acteur, avec échanger de la nourriture avec une voiture qui n'avait plus rien, donner un coup de main quand il y avait une voiture qui était, dont le moteur était noyé. Enfin, on était vraiment dans l'actu, quoi.
Vous passez 3 jours dans ces bouchons, vous arrivez en Pologne, et arrivé en Pologne, vous prenez l'avion, vous rentrez en France. Là, on est dans quel état d'esprit quand on quitte un pays en guerre ?
C'est vrai que c'est compliqué. La transition n'a pas été brutale. On a eu 15 jours pour s'acclimater. Déjà, on fait une nuit dans un bon lit. Et puis, c'est vrai qu'on repense à toutes les personnes qu'on a croisées. On prend des nouvelles. De la fixeuse, par exemple, qui est partie, elle aussi, à l'étranger. Il y a plein de gens qui ont échangé nos numéros de téléphone, qui nous donnent des nouvelles, de savoir où ils sont, comment ça se passe pour eux. Souvent, ça se passe très, très mal en plus. Dans plusieurs villes d'Ukraine, les retours que j'ai eus, ce n'était pas très bon. Par exemple, à Tcherniv, il y avait quelqu'un qui a laissé sa grand-mère là-bas et elle n'avait plus de nouvelles aux dernières nouvelles. Donc ça, c'était super dur. Donc c'est difficile de décrocher. Et en plus, là, c'est en plein dans l'actu. Donc on continue à suivre le truc à distance.
Tu arrives lundi soir à Paris. Là, le moment où on tourne ce podcast, on est jeudi. Qu'est-ce que tu fais de lundi à aujourd'hui ?
Alors, mardi, je suis allée en plateau pour en parler. Mercredi, j'ai fait une lessive parce qu'évidemment, je n'avais plus rien de propre, bien sûr. Et puis, le jeudi, on vient en reparler. C'est un peu comme si on avait du mal à décrocher parce que c'est une actu qui est évolutive et qu'on a vécu de près, quoi.
On arrive à en parler à sa famille, à ses proches ?
Oui, évidemment, ma mère était très inquiète. C'est bon, elle est rassurée. Et puis moi, j'ai un petit garçon de 4 ans, donc je ne voulais pas trop lui en parler. Il savait juste que j'étais en Ukraine, sans savoir exactement ce qui se passait. Et il a compris en voyant à la télé ce qui se passait. Il m'a regardée un peu sidérée en se disant « Ah bon, c'est vraiment là-bas que tu vas ?» Donc c'est un peu compliqué à gérer, ça aussi.
C'est pas trop frustrant d'être en France alors que beaucoup de choses se passent en Ukraine ?
Si, bien sûr, mais effectivement, il avait été prévu de rentrer, donc il faut rentrer, il faut recharger les batteries, laver ses vêtements parce qu'il n'y avait plus rien de propre dans la valise, et puis et se tenir prêt s'il faut.
Ce n'est pas la première fois que tu es dans une zone de conflit. Tu étais déjà à Kaboul quand les talibans ont pris l'Afghanistan. C'est quoi la différence entre ces actualités et ce que tu as vu, ce que tu as vécu en Ukraine ?
Alors, en Ukraine, jusque-là, on parle de 2 armées régulières, russes et ukrainiennes. Et par rapport peut-être à tout ce que j'ai vu avant, là, ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'implication de la population civile. C'est-à-dire que tous les Ukrainiens, déjà les hommes sont réservistes, sont appelés à faire la guerre. Et tous les Ukrainiens sont appelés, on l'a vu, à faire des cocktails Molotov, par exemple. Il a été demandé aux Ukrainiens à Kiev de monter sur les toits, voir s'il y avait des traces blanches qui auraient pu servir à guider les avions russes et de les cacher. Donc il y a une implication générale de la population sur ce conflit, et même via les réseaux sociaux aussi. Hein. Toutes les publications, toutes les vidéos servent aussi à montrer les muscles et à dire qu'ils ne sont pas prêts à capituler devant l'armée russe tout de suite. Quoi.
Et dans ta façon de faire le travail, de rencontrer des habitants, des résistants
Alors, la différence était entre Kiev et le Donbass. Kiev, les gens parlaient volontiers sans problème. Et puis, on a aussi rencontré des francophones, voire des Français qui étaient ravis de parler de ce pays. En revanche, dans le Donbass, les gens avaient peur de parler, notamment par rapport aux représailles russes. C'est ce qui nous expliquait qu'en fait, la ligne de front étant juste de l'autre côté, ils avaient peur d'être visés ensuite par l'armée russe, si jamais ils parlaient aux télés occidentales, sachant que dans le Donbass, y a des endroits où la seule source d'information, c'est la télé russe. On ne capte pas la télé ukrainienne dans certains endroits. Donc forcément, leur vision du conflit était très différente. Ils étaient ukrainiens et pro-ukrainiens, mais avec uniquement des informations russes. Donc, ça se traduisait pour eux dans une méfiance générale de tous les médias.
Mmh. Tu me disais que tu te sentais plus en sécurité dans le Donbass qu'à Kiev.
En fait, le danger était plus palpable dans le Donbass. Le Donbass, il y a une ligne de front avec, quand on s'approche, des bombardements, des explosions, on ne sait pas trop exactement ce qu'il en est.
Nous sommes dans la localité de Chachtia. C'est une des dernières villes avant la République de Lugansk, une des deux républiques autoproclamées du Donbass, avec ce checkpoint au bout de cette rue, ici. Impossible pour nous de le franchir. Et nous entendons, depuis ce matin, des tirs nourris, sans pouvoir savoir d'où ils viennent, qui les tire, et évidemment une présence militaire importante tout autour de ce checkpoint. Un checkpoint qui se situe pourtant au milieu des habitations, des habitants qui nous ont expliqué, commencé à regarder pour aller se mettre à l'abri, parce que pour eux, même s'ils connaissent la guerre depuis 8 ans, ici, ça s'est intensifié ces derniers jours. Et on voit d'ailleurs beaucoup de voitures civiles repartir très vite dans l'autre sens, avec également des camions militaires.
On l'entend, on peut le jauger, on peut jauger la distance avec laquelle on est, et ensuite on peut se replier. Ce qui a été compliqué à gérer, c'est vrai, le jeudi dans la nuit, quand il y a eu les bombardements, du mercredi au jeudi, il y a eu 2 bombardements russes. Et c'est tout. Et la menace était là, mais n'était pas palpable. Il se passait rien dans la ville. Il n'y avait pas de bruit d'explosion ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'était ça qui était difficile à gérer. C'est que le danger n'était vraiment pas visible et tout le monde se demandait ce qui allait arriver.
En rentrant en France, tu gardes cette peur, ces appréhensions du risque que tu avais à Kiev ou en Ukraine ?
Non, parce que c'est un pays qui est à 3 heures d'avion. Beaucoup de personnes qui ont traité les attentats à Paris expliquent que ce qui était très difficile, c'est que c'était dans l'environnement immédiat. Là, il y a toujours un peu le décalage. C'est un environnement qui n'est pas le nôtre. Et donc, c'est plus facile de couper en rentrant par rapport à ça.
Aujourd'hui, tu es en France. Pour combien de temps encore ? Est-ce que tu comptes repartir en Ukraine ?
Si l'opportunité se fait sentir et s'il y a besoin, oui, bien sûr. Évidemment, parce que c'est un conflit évolutif, où on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de le suivre, on a envie de continuer à le couvrir, évidemment, et à voir comment les Ukrainiens le gèrent. Donc oui, bien sûr.
Ce matin, tu es allé faire une demande de visa pour aller en Russie. Pourquoi ?
Parce que ça peut aussi être là où ça peut se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Comment va tenir la Russie, économiquement parlant, par exemple ? Quelles vont être les conséquences ? Depuis le début de ce conflit, on ne sait pas exactement quels sera les prochains, ce qui va arriver par la suite. Donc, c'est important de pouvoir couvrir les deux côtés.
Et là, c'est quoi ton programme pour les prochains jours ? Tu sais un peu ?
Alors, je suis off 3 jours en famille. Et c'est le mieux à faire en ce moment, c'est de profiter, d'essayer de couper sa télé et de se concentrer sur sa famille.
Bon courage alors. Merci.
Merci.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un nouveau podcast créé pour couvrir différemment la guerre en Ukraine. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.